Pascal Lévesque, natif de Québec, résidente de Montréal, journaliste de formation qui a travaillé entre autres pour le Journal de Montréal pendant 8 ans, chroniqueuse à la télé de Radio-Canada, elle s'est lancée dans l'écriture de son nouveau bouquin qui vient de sortir, « La route des fromages en grains », un guide qui fait « squick, squick ». Bonjour, Madame Lévesque.
Bonjour, Daniel.
Je vous demande d'entrée de jeu, Madame Lévesque, pourquoi « squick, squick » et non pas « quick, quick » Est-ce que c'est parce que la fromagerie des Basques a des droits préservés sur le fromage qui fait « quick, quick »
Ah, ben j'ai pas pensé à ça, mais j'aurais pu leur demander la permission. Mais non, en fait, « squick, squick », c'est la façon que moi, je l'écris, là. C'est pour ça qu'on a choisi ça.
Donc, vous apprenez en même temps qu'à la fromagerie des Basques, le fromage, il fait quick, quick et non pas squick, squick.
Oui, mais c'est vrai. Ce que vous dites est rigoureusement vrai. Ils ont enregistré la marque de commerce quick, quick. On m'a tout expliqué ça quand je suis allée rendre visite à la famille Petitgrou et à leur collègue Michel Lévesque, avec qui j'ai partagé du fromage en grains, puis on s'est assis pendant une bonne heure ensemble à placoter vraiment des gens exceptionnels. Puis c'est un peu ça, hein, l'objectif du livre du fromage en grains, c'est que c'est un beau prétexte pour aller rencontrer tous ceux qui nous nourrissent, parce que tu sais, je trouvais qu'on perdait un peu le contact, parce que c'est comme ça que moi j'ai découvert, tu sais, que j'ai décidé de faire un livre avec ce projet-là. Je faisais le tour du Québec pour un blog dans lequel je m'amusais, tu sais, à comparer les fromages en grains. J'ai rapidement rencontré des gens qui fabriquaient ce fameux fromage en grains. J'ai dit, ben là, il faut raconter leur histoire. Tu sais, c'est l'histoire du Québec, c'est l'histoire de notre territoire.
Tout de suite, la question qu'on va régler en partant, là, pour ceux qui se demandent, c'est quoi qui est venu avant, c'est-tu le fromage en grains ou la poutine? C'est définitivement le fromage en grains. Traditionnellement parlant, ce fromage-là, avant qu'il devienne une super vedette, était déjà une partie du procédé de fabrication du fromage.
Ben exactement. Puis c'est parce qu'il y a eu une abondance de fromage en grains dans certaines régions, donc le centre du Québec, entre autres choses, que la poutine est née. Parce que quand ça déborde de partout, on essaie de faire des choses avec. Mais oui, le fromage en grains, c'est une des étapes dans la fabrication du cheddar. Et donc, au début du 20e siècle, on nous a demandé de fabriquer du cheddar pour l'Angleterre, pour faire notre effort de guerre, là, si je peux expliquer ça un peu. Donc, il y a plein de fromageries qui ont poussé partout sur le territoire québécois, parce qu'il y avait déjà beaucoup de fermes laitières. Ça nous a permis de s'organiser. Et les gens se pressaient devant les portes de la fromagerie pour aller déposer leur lait, surtout le samedi, parce qu'on travaillait pas le dimanche. C'est devenu un deuxième perron d'église. Parle-parle, on a faim. On pige dans le bassin, on prend du fromage en grains. C'est donc rapidement devenu une tradition qui était bien inscrite dans les mœurs. Et c'est resté, puis heureusement que c'est resté, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont hâte à leurs vacances dans le bas du fleuve ou en Gaspésie pour aller faire un tour au Basque, faire un tour au détour dans le Témiscouata si on prend nos vacances près du lac.
Charlevoix-Saint-Fidèle?
Hey, Charlevoix-Saint-Fidèle, ben oui, hey, ça, t'es obligé, tu sais, quand tu viens de Québec, tu roules, puis là, t'as pas le choix d'arrêter à la laiterie Charlevoix, puis là, tu continues, puis là, tu te rends à Saint-Fidèle, puis là, t'as plus faim. Mais c'est pas grave, t'as bien mangé.
Mais, Madame Lévesque, c'est intéressant aussi. Si on regarde, parce que moi, je suis un gars du bas du fleuve depuis toujours, mais je suis un gars aussi qui a voyagé dans Charlevoix pour les vacances, pour l'agrément. Il faut quand même dire que dans le secteur est du Québec, là, l'est des deux rives finalement, oui. Saint-Fidèle est une des plus vieilles fromageries. D'ailleurs, il fut un temps où c'était la plus près de l'est du Québec de la rive sud, c'est-à-dire que quand on s'en allait l'autre bord, fallait pas oublier de passer par la fromagerie Saint-Fidèle. Sur la rive sud, dans le Bas-Saint-Laurent, à ma connaissance, il n'y en avait pas, ou s'il y en avait une, je ne sais pas où est-ce qu'elle était, là.
Mais en fait, c'est ça, c'est une institution, hein, puis tu sais, on retrouve ce genre d'institution-là un peu partout sur le territoire québécois. Puis ce qui est le fun, c'est que les citoyens tiennent à leur fromagerie, puis ils vont tout faire pour que la fromagerie reste dans le paysage, parce que c'est important. Tu sais, on parle de Saint-Fidèle, mais tu sais, je pourrais donner l'exemple aussi avec le détour. Ginette Bégin, qui est la copropriétaire, m'expliquait comment son comptoir, sa fromagerie était une vitrine pour les produits locaux. Fait que ça devient un genre de magasin général du manger local. Et ça, c'est super important pour une communauté parce que, tu sais, oui, les gros vecteurs d'emploi, les grosses usines, ça, c'est bien, ça donne la vitalité aux régions, mais les fromageries sont là pour rester. Puis c'est une fierté et c'est la somme de ces fiertés-là qui fait la fierté d'une région. Oui. Puis le Québec, ben c'est majoritairement des régions, là, c'est pas juste une grosse ville qui s'appelle Montréal.
Madame Lévesque, le temps file, puis comme je vous le dis, moi je connais le Bas-Saint-Laurent comme le fond de ma poche. Je fais de la radio depuis au-delà de 40 ans. Donc je sais comment orienter, si on veut, ma prochaine question. C'est que on s'aperçoit que les fromageries ont leur espèce de définition par rapport à la vocation et surtout par rapport à ce qu'elles veulent mettre de l'avant. Si on regarde, par exemple, la fromagerie des Basques, c'est devenu un véritable complexe commercial. Là, si vous savez de quoi je parle si vous êtes arrêté là. Ça tourne 24 heures sur 24. Tu peux arrêter là 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. En tout cas, à moins que ça ait changé avec la pandémie,
ouais,
c'était
oui,
comme
avec
ça
la
avant.
Pandémie. Avec la pandémie,
fromagerie,
on plus 24 heures.
Fromagerie du détour, beaucoup de prix de gagner à l'international avec le fromage. Et quand on parle de la fromagerie Saint-Fidèle, je dirais que sur le plan de la culture régionale, lorsqu'on nomme la première fromagerie où on s'est peut-être arrêté dans les années 70, même dans les années 60, on va parler de la fromagerie Saint-Fidèle. Donc, on ne peut pas les mettre dans un bloc homogène et de dire elles sont toutes pareilles, elles ont toutes la même vocation, puis elles opèrent toutes selon le même modèle d'affaires. C'est pas vrai, là.
Non, puis c'est correct comme ça. Je voudrais que la fromagerie Saint-Fidèle, c'est une gardenne de tradition. Mais par exemple, la fromagerie des Basques, comment c'est parti? C'était pour valoriser le lait de la région. Parce que s'il n'y a pas de transformateur laitier, le lait de la région, il s'en va de la région. Oui. Il y a une limite à ce qu'on peut boire du lait chez nous. Là. Donc, c'est le fun que ça soit transformé en fromage. Fait que ça permet de garder le lait des vaches, des champs, de nos agriculteurs, de nos artisans dans la région, puis de le consommer de manière locale.
Ben, est-ce que vous savez quelle est la plus vieille fromagerie encore en opération au Québec?
Bien, au Québec, je dirais... Je ne sais pas si on peut compter ça comme une fromagerie encore en opération, là, mais tu sais, quand on va à Saint-Prime, à la vieille fromagerie Perron, là, qui est devenue le musée du cheddar, ben Perron existe encore, mais ça, c'est un vestige de l'époque où on fabriquait du cheddar pour l'Angleterre. Mais la plus vieille là, que j'ai visitée, elle est en Ontario, et c'est la plus vieille coopérative laitière au Canada. La plus vieille coopérative tout court au Canada, c'est plus vieux que Desjardins, et c'est Saint-Albert. Et ils ont plus de 125 ans.
Bien.
Donc,
bien. Ouais. Hey, je vous demande, Mme Lévesque, parce que le temps nous est maintenant compté, pourquoi vous avez tenu à parler de la gestion de l'offre dans votre livre? C'est peut-être le passage le plus aride du livre. Pourquoi vous avez tenu à parler de la gestion de l'offre et surtout en la définissant là, comme étant au Canada la dernière formule comme ça? Vous avez dit, nous sommes les derniers des Mohicans. Ouais. Mais pourquoi vous avez tenu à parler de gestion de l'offre dans votre livre?
Parce que personne ne comprend c'est quoi la gestion de l'offre. Donc, c'est très facile de galvauder cette manière-là de voir l'agriculture dans les médias. La gestion de l'offre, là, on pense que ça limite les gens à vendre leurs produits laitiers au prix qu'ils le veulent. On dit toujours que ça coûte plus cher parce qu'on a la gestion de l'offre. Mais ça, c'est pas vrai. Puis je l'explique très bien dans le livre. Parce que derrière la gestion de l'offre, ça permet à des fermes familiales d'exister. C'est en accord avec nos principes d'occupation du territoire. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière. C'est pour ça que je tenais à l'expliquer. Puis, tu sais, on parle beaucoup là, de gaspillage alimentaire, là, mais la gestion de l'offre, là, on ne fabrique pas plus de lait qu'on en consomme. C'est comme ça que c'est géré. Évidemment, il y a beaucoup de défauts. Je pense que ce genre de politique, il faut les faire évoluer avec les époques. Mais alors où on est préoccupé par l'environnement beaucoup. Le gaspillage alimentaire a un impact assez sérieux sur l'environnement. Quand on parle de gestion d'offres, c'est vraiment une belle manière de contrôler ce gaspillage alimentaire-là. Oui. Donc, et s'assurer d'avoir des produits de qualité, parce que une ferme de 20 vaches ou une ferme de 200 vaches va pouvoir profiter des mêmes services. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que la gestion d'offres, c'est peut-être pas le meilleur système pour tout le monde, mais c'est le moins pire pour tout le monde.
Bien, donc, dernière question, préface signée par Christian Bégin. Christian Bégin, c'est pas un inconnu ici.
Résidence
au Kamouraska, très impliqué. Bon, pourquoi lui? Pourquoi pas un chef cuisinier? Pourquoi pas mais pourquoi Christian Bégin?
Ben parce que je pense que Christian Bégin représente bien ce que je veux provoquer avec le livre, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui, quand il a découvert Kamouraska, d'être le lien entre l'urbanité et la ruralité. Puis il est un beau passeport pour découvrir finalement les régions du Québec. Et je pense que si Christian Bégin était un aliment, il serait un fromage en grain. Parce que le fromage en grain, c'est aussi la même chose. C'est la clé de voûte pour découvrir notre terroir. C'est le lien entre nous qui mangeons et ceux qui fabriquons. Donc, voilà.
Hey, merci, Mme Lévesque. Ça a été très intéressant. Merci. Au plaisir.
Merci beaucoup, Daniel.
Pascal Lévesque, auteur du livre qui a pour titre « La route du fromage en grain ». Puis là-dedans, là, écoutez, là, on aurait pu, très, très, très honnêtement, en plus que Mme Lévesque avait une bonne jasette, on aurait pu parler de plein d'affaires. On vous dit même comment conserver votre fromage en grain. Tu sais, parce que tu l'achètes, il est bien bon, il est frais, mais le lendemain matin, il est moins frais. On vous dit même comment faire. On vous dit comment faire après que le sac est ouvert. Vous allez trouver ça intéressant.